Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette dernière rencontre du cycle Écrire, écrire, pourquoi, qui nous vaut le grand plaisir d'accueillir ce soir Laurent Mauvignier. Et je le remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. En 10 ans, Laurent Mauvignier a publié 7 romans aux éditions de Minuit et également un court récit aux éditions Inventaire Invention. Et depuis son tout premier roman, Loin d'eux, paru en 1999, jusqu'au dernier, Des hommes, publié en 2009, il y a souvent à l'origine des récits de Laurent Mauvignier la question du traumatisme intime ou collectif, des douleurs tues, des manques, du non-dit. Il donne la parole aux sans-voix, explore le labyrinthe de leur souffrance et de leur solitude. Alors, comment naissent les personnages de Laurent Mauvignier? Comment laissent-ils grandir en lui leur voix? Voilà quelques questions qui vont sûrement nourrir cet entretien avec Fabienne Dumonté, que je remercie également d'avoir accepté notre invitation. Fabienne Dumonté, qui est critique littéraire au Monde des Livres et qui enseigne la littérature à l'École normale supérieure. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Francine Figuère, pour cette présentation. Je remercie vivement la BPI pour cette invitation et pour l'organisation de cette soirée dans le cadre de son cycle sur la création à l'œuvre. Et je remercie son équipe de nous donner ainsi, à nous, lecteurs, à vous, lecteurs, la possibilité de jeter un coup d'œil ce soir dans l'atelier de création de Laurent Mauvignier. Hein, là un peu où se fabrique une œuvre, là où se fabrique un parcours d'écrivain. Un parcours d'écrivain qu'on n'a pas toujours la liberté, ou le culot peut-être, pour tout dire, d'interroger aussi directement qu'on va pouvoir le faire ce soir, grâce à la thématique qui a été annoncée par Francine Figuère. Oui, Laurent Mauvignier, écrire pourquoi? Peut-être que cette question frontale reste toujours aussi intimidante pour vous, même après une décennie après la publication de votre premier roman, comme l'a rappelé Francine Figuère à l'instant, Loin d'eux, paru chez Minuit en 99, alors que vous aviez tout juste 32 ans, et même après les 4 autres romans que vous avez publiés par la suite, et surtout, j'allais dire, même après la reconnaissance des lecteurs qui vous a été acquise dès vos débuts, et en fait, plus précisément, avec Apprendre à finir, votre deuxième roman, pour lequel vous avez reçu le prix du Livre Inter en 2000. Et j'allais dire, même si cette fidélité de votre lectorat atténue peut-être l'angoisse qui est contenue dans cette question, hein, écrire pourquoi? Eh bien, pour être lu, et vous êtes lu, évidemment. Et c'est quand même bien à vous, en priorité, dans le paysage de la littérature française contemporaine, qu'on a envie de la poser, cette question des origines ou des fins, des motivations de l'écriture. À vous, parce que, comme le rappelait à l'instant Francine Figuère, on voit bien dans vos romans que le langage ne va pas de soi, justement, qu'il faut à l'écrivain un travail considérable ou alors une attention particulière, je ne sais pas de quelle façon il faut le prendre, pour tirer ce langage de ses failles, pour le tirer de ses silences, de ses malentendus et de ses échecs auxquels vos personnages se confrontent et avec lesquels ils se débattent, justement. Alors, ça peut être les proches d'un jeune suicidé dans Loin d'eux, qui entremêlent leurs paroles pour dire leur incompréhension de cet acte incompréhensible. Une femme délaissée qui confie son obsession de reconquérir son époux dans Apprendre à finir par le biais d'un long monologue. Des anonymes dont les parcours se croisent lors de la tragédie du Stal de Hessel en 85, où des spectateurs ont péri étouffés. Ou encore d'autres anonymes, des anciens combattants de la guerre d'Algérie, dont l'histoire s'est faite et la vie s'est brisée là-bas, et qui sont les héros de votre dernier roman, Des hommes, paru en 2009. Ce sont souvent des gens modestes, ces personnages, que les mots trahissent, soit qu'ils en disent trop, soit qu'ils n'en disent pas assez, soit qu'ils ne disent pas les bons mots. Et votre romanesque à vous se construit dans l'accueil que vous faites à ces faiblesses, justement, au sein du récit, de la langue et dans leur orchestration, loin de tout jugement moral, que ce soit à l'échelle du noyau familial ou à celui d'une génération. Alors bien sûr, il y a eu un glissement dans ce parcours romanesque, de l'événement intime, qui a donné lieu à l'intrigue de loin d'eux, jusqu'aux événements collectifs, hein, les événements de la guerre d'Algérie. Mais il y a toujours, on le voit, l'expérience d'un réel tragique, comme le rappelait Francine Figuère à l'instant, qui déborde et qui interroge justement le langage, ses capacités, et partant forcément, qui représente un défi pour l'écriture. Et je rappelais justement à Laurent Mauvigné que j'avais repensé, juste avant de cette rencontre, que la thématique de ce soir m'avait fait penser à la façon dont Hemingway avait évité la question. Lorsqu'un journaliste, un peu téméraire et peut-être un petit peu inconscient aussi, lui avait posé un jour la question de savoir quel conseil il donnerait à un jeune écrivain qui voulait se lancer, comme ça, dans l'entreprise d'écrire. Et Hemingway, vous savez qu'il avait un abord un peu rugueux, hein, quand même, pour les journalistes. Et Hemingway avait répondu, bah, écoutez, qu'il aille d'abord se faire pendre, ça lui fera déjà une bonne histoire à raconter. Et en fait, je pensais à cette anecdote. Alors, je vous rassure, Laurent Mauvigné n'a pas un abord aussi rugueux que ça. Donc, je pense que ses réponses ne seront pas aussi lapidaires ni peut-être provocantes. Mais c'est une réponse qui m'a toujours beaucoup fait réfléchir, au-delà de la question de la boutade, sur les conditions de l'écriture, les origines de l'écriture. Et Hemingway dit, en fait, écoutez, c'est impossible de répondre à cette question. Voilà, allez vous faire pendre, hein. Allez vous faire voir ailleurs. Et en même temps, ce qu'il dit, c'est allez d'abord vous faire pendre, hein. Allez d'abord créer une nécessité intérieure, allez d'abord voir ce que c'est que la limite, et puis ensuite, une fois que vous aurez créé cette nécessité intérieure, allez écrire. Je crois que c'est une façon géniale d'écrivain de répondre à cette question impossible à traiter, parce qu'elle est frontale. Et je voudrais partir, justement, à partir de cette boutade, je voudrais partir de cette idée que dit Hemingway de se créer une nécessité intérieure, d'abord, avant de voir. Et cette question de écrire pourquoi, je voudrais savoir si vous, vous l'êtes posée dans votre parcours d'écrivain, intimement, à quel moment, si c'est le cas, peut-être à vos débuts, peut-être à des tournants de votre écriture, peut-être maintenant, peut-être que vos idées sont plus claires, peut-être qu'elles le sont moins. Ou si alors c'est une question que vous avez toujours reçue de l'extérieur, posée par des gens comme moi, par des gens comme vous, qui vous demandent de vous légitimer en tant qu'écrivain. Voilà, je voudrais savoir si cette question, justement, écrire pourquoi, relève d'une nécessité intérieure, si ça a été le cas, ben, dans quelles circonstances. Et sinon, si le fait qu'on vous l'ait posé vous a finalement appris quelque chose sur votre parcours et métier d'écrivain.
Bonsoir à tous. Pour moi, ça me renvoie effectivement à la question un peu de l'origine de l'acte d'écrire. Pourquoi écrire? Bon, alors, moi, au départ, je raconte toujours les mêmes histoires. Alors, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, parce que je répète toujours les mêmes choses.
Jamais de la même manière.
Donc voilà, moi j'ai eu une enfance, il n'y avait pas de livre à la maison. Je n'avais pas l'imaginaire familial et même de ma petite ville n'était pas du tout, à part les noms de rue qui étaient tous des noms d'écrivains, c'était à peu près le seul rapport à la littérature qu'on pouvait avoir, quoi. Ce qui n'est peut-être pas si innocent d'ailleurs, mais voilà, moi je me souviens comme à 9 ans avoir été hospitalisé et pour la première fois de ma vie on m'a offert un livre, on m'a offert un livre et un cahier. Alors c'était un peu mal barré en fait. J'ai lu le livre, c'était Le bon petit diable de la comtesse de Ségur. Et quand vous êtes gamin, que vous êtes immobilisé, vous voyez un enfant qui fait les 400 coups. Et quand le livre a été terminé, ça a été un truc assez terrible. Et bah, du coup, j'ai pris le cahier, j'ai continué l'histoire, en fait. J'ai repris, j'ai voulu inventer une suite à ça. Et puis, ben voilà, après, je me suis même pas posé la question du pourquoi écrire. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal quand on ne peut pas sortir de sortir quand même par ce biais-là. Ça permettait au moins ça, quoi. Et donc voilà, après, il y a eu l'adolescence, il y a eu un rapport à la littérature, notamment par on en parlait par le biais de Victor Hugo. Mais c'était quelque chose comme ça qui était là pour moi. Il y a eu un moment où il m'a semblé que l'écriture, c'était trop un enjeu trop important, trop... Et dans l'adolescence, vraiment, à un moment, j'ai vraiment lâché, mais avec un rejet total de l'idée d'écrire. Après, je suis entré aux Beaux-Arts. Et aux Beaux-Arts, il y avait c'était très... pas seulement les arts plastiques, en tout cas, il y avait vraiment l'art conceptuel, tout ça, j'ai découvert tout ça. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à remettre des mots dans mes tableaux. Et puis à la fin, il n'y avait plus que des mots. Et puis je me souviens du regard des autres, pour le coup, de mes profs, comme par exemple, qui disaient, mais tu veux pas arrêter là, tu pourrais pas faire ce que tu as envie de faire, en gros, quoi. Et moi, c'était plutôt au contraire un rejet. Puis je me disais, mais à chaque fois, c'était pourquoi ils me disent ça, je veux pas, quoi. J'avais vraiment peur de l'écriture. Et donc moi, la question, c'était plutôt de... je me suis jamais posé la question de pourquoi écrire. C'était la question plutôt de comment assumer d'écrire ou pas, quoi. Et alors, je crois pas du tout aux histoires de vocation et tout ça. Alors, je suis très emmerdé avec ça, parce que j'ai des clichés à dire et des poncifs sur le petit être chétif quand il est enfant, qui quand même, voilà, trouve l'écriture comme moyen d'être, en fait. Puis qu'en même temps, voilà, c'est quelque chose de très protégé, de très isolé. C'est aussi un rapport aux autres, une façon de se construire soi, mais aussi de se protéger. Donc voilà, et ça, je me suis un peu battu contre. J'ai eu l'impression de battre contre ça dans l'adolescence, parce que l'écriture, c'était quelque chose d'assez. Enfin, moi, je vivais ça comme quelque chose d'effrayant, quoi. Mmh. Donc pas du tout tentant, du tout, du tout. Après, le problème, c'est voilà, ça a duré comme ça pendant des années. Au bout d'un moment, on se dit bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'assume ou pas ? Les arts plastiques, c'était bien, mais je sentais que c'était pas complètement ça dans mon désir. Je sais pas si c'est une nécessité, en tout cas, c'est une sorte de désir. Que, voilà. Je me suis posé la question, non pas du pourquoi, mais du. En tout cas, pourquoi j'y tenais, en fait. Mmh. Alors, je me souviens, quand j'étais gamin, avoir vu Marguerite Duras une fois à la télé, elle parlait des prophètes. Et ça m'avait bien scotché. Je m'étais dit, là, il y a un truc qui a à voir avec la vérité, quoi. Quelque chose qui grandit, quoi. Je dirais pas qui me faisait rêver, comme le cinéma peut faire rêver, par exemple. Mais quelque chose qui, tiens, il y a une façon de. Je me dis, quelque part, il y a une façon de transfigurer le réel, de rendre ça habitable, en fait, quoi. De rendre cette villa habitable. Et je me disais, tiens, peut-être que l'écriture, ça peut être un lieu, mais qui me faisait peur, alors, du coup, parce que je ne suis pas à la hauteur de ça. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, vous retrouvez à 30 ans au chômage, vous pouvez passer un CAPES d'art plastique, vous dites, ouais, pourquoi pas, c'est bon. Mais au fond, le vrai enjeu, c'est est-ce que j'assume mon envie d'écrire ou pas, quoi. Puis, ben voilà, à un moment, mais j'ai eu l'impression que. En fait, moi, j'étais écrivain. Je me dis bon, il faut écrire des livres pour être écrivain, donc écrivons des livres. Mais c'était presque une conséquence d'une façon d'être, en fait, pour moi. Donc la question de pourquoi écrire, maintenant, peut-être que je me la pose plus maintenant, dans l'idée du pourquoi continuer. Pourquoi, pour dire quoi, pour faire... J'ai pas envie de devenir un professionnel. J'ai envie d'écrire des livres dont je pense que je pourrais pas vivre sans les avoir écrits, en fait. Même si ça fait un peu grandiloquent de dire ça comme ça, mais au fond, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, pourquoi ce livre-là plutôt qu'un autre ? Pourquoi continuer ? Les gens, alors là, pour le coup, en rencontrant des gens, ces questions-là prennent un peu forme, parce que vous rencontrez les gens qui vous racontent parfois tout le bien que votre livre peut leur faire, etc. Et du coup, c'est presque effrayant, parce que c'est juste un livre, quoi. En même temps, c'est beaucoup et c'est pas grand chose en même temps. Alors, il faut y retourner. Alors, comment vous faites pour retourner le lendemain? Matin, vous écrivez vos petits. Pour moi, je suis comme quand j'étais enfant. Voilà, je me mets à mon bureau. J'ai le même bureau depuis que j'étais. Enfin, ça fait 40 ans que j'ai le même bureau, quoi. C'est pour ça, j'ai envie de dire, c'est plus simple que ça, en fait, que la question du pourquoi écrire ou pas. Oui, c'est plutôt pourquoi continuer. Enfin, pour moi, la question aujourd'hui, ce serait plutôt pourquoi continuer. Surtout que, maintenant, il y a un moment où, quand on commence à écrire dans les premiers romans, on a des influences. Donc, c'est comment un petit peu se démarquer de tout ça, comment essayer de trouver une voie qui soit la sienne, comment écrire sans tricher, on va dire. Au bout d'un moment, vous avez un autre problème. Là, pour le coup, maintenant, ça, c'est quelque chose que je sais, c'est que d'un seul coup, vous avez votre écrivain en vous qui vous prend beaucoup de place et moi qui m'emmerde souvent, en fait. Alors, mon problème, c'est comment me débarrasser de me vider un peu. Ça, c'est un problème, par contre.
Voilà. Alors, dans la composante de ce problème, j'ai l'impression qu'il y a aussi... dans cette question du comment continuer à écrire, justement, les réactions qu'il y a eues au fur et à mesure à vos romans, en fait. Et si peut-être au début, vous ne saviez pas pourquoi écrire, on a bien vu dans les entretiens que vous donniez sur vos livres que ce qui se précisait, c'était aussi ce que je n'écris pas, en tout cas. Et la façon dont je ne veux pas être lue. Et je pense, par exemple, l'un de vos romans donc, qui a eu le plus de succès, Apprendre à finir, qui a vraiment été en 2000, voilà...
Mon tube.
Voilà, votre tube, dire ça. Un peu comme Stéphanie Monaco. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Apprendre à finir, très, très beau titre, en plus. On a vu, hein, tout à coup, un Laurent Mauvignier qui disait... Qui, à un moment donné, a saturé, en fait. Hein, je crois qu'il disait, mais vous avez dit, à un moment donné... il y a eu un malentendu sur la façon dont on me lisait, et les lecteurs me disaient « Ah, comme vous comprenez bien les gens !» Voilà, parce que vous écriviez des monologues, parce qu'effectivement, « Apprendre à finir » est écrit à la première personne avec une voix féminine, et du coup, il y avait une lecture psychologique, même psychologisante, en fait, de vos livres, et ça, visiblement, ça vous a fait prendre conscience... d'une partie des raisons pour lesquelles vous écriviez, en fait, et des effets que vous vouliez avoir sur le public qui n'étaient pas forcément ceux-là.
Bah, disons qu'en même temps, moi, au départ, je fais les livres que je fais, je les découvre un peu en les faisant en même temps. Donc rencontrer le public après, ou rencontrer les lecteurs, parce que le public, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas les lecteurs, on va dire, les uns après les autres, comme ça... Bah vous entendez, voilà, ils racontent eux le livre qu'ils ont lu, ce qui n'est pas forcément celui que vous avez écrit, mais qui est aussi celui que vous avez écrit. Alors c'est très troublant parce que ça produit une espèce de dédoublement un peu. Alors quand les gens vous disent des choses où leur interprétation peut se contredire, une fois ça m'est arrivé comme ça dans une librairie où deux personnes se sont prises à partie parce qu'elles n'avaient pas du tout la même lecture du personnage. Alors c'était le bonheur pour moi parce que je pouvais m'absenter, je pouvais partir et les laisser vivre leur livre et c'était très bien. Je pouvais aller me faire pendre et ça c'était
écrire un autre livre.
Et voilà et du coup ça c'était bien. Et moi c'est ça que je cherche. Après, quand on me... Voilà, par exemple, quand on me dit le roman psychologique, ça a quelque chose pour moi de... Mais c'est la question des genres. Moi, je veux pas faire de roman psychologique. Je passe tellement de temps à m'emmerder à essayer de décrire quelque chose correctement que réduire à le roman psychologique, d'un seul coup, ça devient un petit peu... Ah non, mais vous avez pas vu comment c'est construit, là, comment c'est fait? Parce que ça... Voilà, moi, il y a une mécanique du roman qui m'intéresse. La psychologie, oui, pourquoi pas, mais la psychologie comme un élément qui produit de l'écriture, comme un élément pour le coup, moi j'aime beaucoup ce que disait Nathalie Sarraute sur ça, capter les mouvements psychiques, en fait. Pour moi, j'ai l'impression de le penser en mouvement, en accélération, en ralentissement, après qu'il y ait des contradictions, etc. Pour moi, c'est plutôt des sortes de flux d'énergie et de tension, de voilà, moi j'essaie de tourner autour de ça. Après, on peut appeler ça psychologie si on veut, mais je trouve que ça c'est un peu réducteur, quoi. C'est une grille. Disons que la psychologie, comme ça, on voit à quoi ça renvoie, et bon.
Oui, on a l'impression que ce contre quoi vous luttez derrière le mot psychologie, c'est aussi l'idée qu'il y a des types qui sont créés, en fait, des archétypes,
ouais,
quoi.
Tout à fait, ouais.
Et que du coup, il y a des scénarios psychologiques, en fait.
Ouais.
Qui sont pas ceux dans lesquels vous voulez tomber en tant qu'écrivain.
Oui, et puis je sais pas, on a l'impression que ça renvoie à une forme un peu convenue, il y a quelque chose, je sais pas, alors c'est peut-être moi qui ai tort, j'ai peut-être tort sur ça, mais je sais pas, je vois ça comme quelque chose d'un peu désuet, alors que j'ai l'impression que mon écriture est faite d'horizons plus contradictoires que ça. Et que c'est pas une... enfin moi c'est pas une lecture qui me mais bon une fois encore il y a des personnages, il y a de la psychologie, je veux pas dire le contraire, Mais une fois encore, c'est un élément parmi d'autres. Puis quand on entend psychologie, évidemment, on entend sentimental et voire un peu mièvre, en fait. Le fond de l'affaire, il est là, quoi. Le fond de l'affaire, c'est est-ce que c'est cucu ou pas. Et évidemment, moi, j'ai pas. Enfin, je vois bien tout ça. Je vois bien comment je me débats contre une certaine tendance psychologisante qui est. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai revu Les choses de la vie pour un truc particulier. Et Les choses de la vie, par exemple, c'est un film qui est vraiment, dans la construction, est assez extraordinaire. Et en même temps, il y a plein de choses qui sont. Qu'on qualifie de psychologique, etc. Et en fait, je me dis, mais c'est pas parce que c'est psychologique, c'est, par exemple, c'est que les images du bonheur dans ce film sont mièvres. Elles sont sentimentales et elles sont très convenues, en fait. Et donc, pour moi, ça me pose plutôt la question du rapport aux images. Quand on dit psychologique, je me dis, tiens, c'est peut-être simplement que j'ai pas trouvé les bonnes images pour dire quelque chose ou pour contrer quelque chose. Par exemple, vous voyez le type en train de mourir, en train de fantasmer son mariage avec ses amis d'un côté et puis les gens qui sont là autour de sa mort de l'autre côté de la table. C'est une assez belle idée, ça. Et en même temps, vous voyez sa jeune épouse, toute souriante, toute de blanc comme ça. Et il joue avec des cerises et il met les cerises sur l'oreille, il mange. Bon, ça, c'est pas terrible, quoi. Je me dis, tiens, l'image est pas bon, est un peu convenue. Alors, le bonheur, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais moi, ça me pose des questions parce que d'un seul coup, forcément, si on peut avoir une lecture de ça très psychologisante, et moi, ma question, c'est comment, dans l'écriture, dans la composition d'un livre, on peut à la fois travailler sur ces clichés, travailler sur ces archétypes, par exemple, de psychologiques ou psychiques. Comment on peut travailler avec ça et en même temps les détourner, les construire, leur faire dire autre chose. Parce que j'ai passé beaucoup d'années à vouloir écrire en ayant tellement peur justement du psychologique, du sentimental, du tout ce qu'on veut, des personnages, du roman. Que je me suis interdit ça pendant 15 ans en fait parce que moi au Beaux-Arts il y avait la figure de il y avait la modernité, le point ultime de la modernité c'était Guyotat et c'était la vitesse de la lumière, on pouvait pas aller au-delà, donc du coup faire du roman no way. Bon, sauf que j'ai envie d'écrire, comment je fais?
Sauf que vous aviez lu Victor Hugo en même temps.
Ouais, voilà, donc il y avait tout ça, il y avait bon, mais c'est vrai que du coup, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui bute, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Ce qui fait que j'y arrive pas, c'est qu'un jour, je me suis aperçu que mon problème, c'était pas que je n'aimais pas les personnages, c'était que je les aimais. Et que c'était plus difficile, évidemment, de travailler avec ça, parce que du coup, j'étais plus en danger, moi, dans ce rapport-là à l'écriture, quoi. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est essayer d'aller dire des choses peut-être qui frisent l'impudique par rapport à ça, mais qui sont essentielles, qui sont dans la vie, quoi.
On propose de lire peut-être un extrait du dernier roman de Laurent Mauvignier qui donne un aperçu parmi d'autres, parce que votre style a beaucoup évolué, du rapport justement au personnage, à la fois de l'empathie et du décalage qui existe entre en fait l'auteur, enfin le scripteur, celui qui écrit, et puis ce que pense, que dit le personnage. Donc là, je vous situe l'extrait. C'est le héros, hein, c'est l'un des personnages principaux. Héros a toujours une connotation super positive, quoi. C'est, je veux dire, protagoniste, mais bon, c'est un mot de plus de trois syllabes, c'est un peu embêtant. Ouais. Mais voilà, Bernard, qui est plutôt un anti-héros, hein, et qui à ce moment-là est un jeune appelé de la guerre d'Algérie, et donc c'est son départ pour l'Algérie en tant que jeune appelé du port de Marseille, c'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est un passage intéressant, justement, sur le langage lui-même et sur le rôle du scripteur, hein, de l'auteur-scripteur, par rapport à la faiblesse des personnages, par rapport au langage. Je vous laisse lire.
Voilà, il est là, sur les quais de la Joliette. On a écrit à la craie le numéro de son régiment sur son casque. Il est fatigué, il n'a pas dormi. Il espère dormir et pourtant il faut encore supporter cette fatigue et l'agitation autour de lui, dans son unité. Toutes les unités qui vont embarquer ce soir et que quelques badauds seulement viennent voir de loin, jetant à peine quelques au revoir, sans plus, comme de la mie de pain aux poissons et aux oiseaux du port. Et cette fois, se dire qu'il va voir la mer, même de nuit. Tant pis si c'est de nuit. Il va voir la mer et il pense au premier mot qu'il écrira à Solange. Il se dit qu'il parlera de la taille du bateau, un bateau tellement grand, dira-t-il, qu'on ne serait pas loin d'y mettre tous les habitants de la Bassée. Pourtant, il ne parlera pas des regards autour de lui, de l'étrange silence qui s'engouffre dans les regards et, sur le bateau, avec eux, avec l'air froid qui cingle, la présence de la peur. Mais il pourra parler des mouettes, des remorqueurs qui s'agitent autour, comme des mouches avec les chevaux et les vaches en été. Et il ne parlera pas de cette crispation, cette panique soudain, dans les regards, les corps tendus, les gestes plus lents, souffle retenu, quand, plus fort que les voix et les cris des quelques hommes sur les quais, et plus fort aussi que ceux des mouettes, ces quelques mouettes qui planent au-dessus de leur tête comme les petits avions de guerre qu'il a vus une fois aux actualités, au cinéma, plus fort encore, oui, jusque dans la gorge, dans la tête, impossible de le dire, encore plus de l'écrire, pensera-t-il, ni à Solange ni à personne, quand sous ses pas quelque chose ressemble à un tremblement, un mouvement, des voix et le vent et les mouettes, il perçoit un coup plus long et plus fort, il lui semble, jusqu'au fond de son être, jusqu'à en avoir les mains moites et pour une fois croiser le regard livide d'un autre appelé qui, comme lui, comme eux, sait que dès cet instant, toute sa vie sera perforée de ce coup de sirène qui annonce le départ.
Voilà. Merci. Donc c'était un extrait qu'on trouvait intéressant parce que il fait bien la différence entre ce que le personnage peut dire, ce qu'il peut dire à Solange, donc sa sœur, ce qu'il peut lui communiquer et ce qu'il ne peut pas lui communiquer, évidemment, qui est beaucoup plus de l'ordre. Alors on a envie de dire de l'ordre de l'émotion intérieure, hein, de l'angoisse, de la pure angoisse, qui va bien sûr marquer tout son parcours ensuite en Algérie. Le problème, c'est que si je parle de l'intériorité, je vais me faire engueuler par Laurent Mauvignier.
Non.
Parce que, je vais vous expliquer, il y a un paradoxe que j'aimerais bien que Laurent Mauvignier éclaircisse ce soir. C'est que, d'un côté, donc il ne cesse de répéter que, même s'il s'intéresse à la psyché, à la pensée des personnages, il refuse l'idée qu'il analyse les profondeurs des personnages. Voilà. Il refuse cette idée que son écriture est un scalpel qui va sonder comme ça les reins et les cœurs. Et c'est vrai que vous privilégiez beaucoup plus la vision d'une pensée en mouvement, en surface, qui se contredit sans cesse. Donc c'est ce que vous expliquiez à la fin, il y a quelques instants en fait. Hein. Voilà. Et donc on a cette espèce de refus de vision d'un homme comme ça avec différentes couches de conscience et puis il faudrait aller chercher comme ça au fond de sa conscience. Et d'un autre côté, laissez-moi finir le paradoxe. Et d'un autre côté, une grande partie de son œuvre, vous êtes lecteur sans doute de Mauvignier, vous le savez, une grande partie de son œuvre est naît de la question du secret. En fait, et c'est la première phrase de son premier livre de sa première page. Qui est d'ailleurs, je vois, sur le programme de ce cycle. Ce n'est pas comme un bijou, mais ça se porte aussi un secret. Hein, c'est la première phrase de Loin d'eux. Et, pour boucler la boucle, le dernier roman que vous avez publié, Des hommes, a une phrase en exergue. Or, c'est rare qu'il y ait des phrases en exergue dans votre œuvre. Et qui reprend cette thématique du secret, même de la blessure secrète. Alors là, c'est pire. Donc, cette blessure qui devient ainsi le fort intérieur... C'est elle que l'homme va gonfler, emplir. Tout homme sait la rejoindre, au point de devenir cette blessure elle-même, une sorte de cœur secret et douloureux. C'est une phrase que vous empruntez à Jean Genet, non sans malice, du Funambule. Donc vous voyez, il y a aussi cette idée que quand même l'écriture est là pour révéler un secret, pour le dévoiler. Et donc ma question, elle est en fait toute simple. C'est-à-dire comment vous faites pour construire... une œuvre sur l'idée du secret, tout en refusant l'idée d'une profondeur psychologique, et vous avez sans doute raison, hein. Je ne dis pas du tout que le paradoxe est insoluble. Moi, j'aimerais savoir, en fait, quel expédient vous avez trouvé dans l'écriture pour justement aborder cette question du secret sans tomber dans le poncif de « Ah, mais nous avons 10 couches de conscience et je vais... »
Oui, voilà. C'est ça, en fait, le problème. Le problème, c'est que on part du principe, avec cette histoire de profondeur, quand j'entends le scalpel et tout ça, c'est bien, chirurgien de l'âme et tout ça. Mais bon, le problème de la profondeur, c'est qu'il y aurait quelque part en chacun de nous un endroit qui serait une espèce de il y aurait le disque dur, en fait, vous voyez, et il y aurait un endroit qui serait la vérité, qui serait une espèce de vérité de l'être. Et... Sauf que, oulala, moi, je vais pas, ça me paraît insensé, j'y crois pas tant que ça, en fait, à cette histoire-là. J'y crois pas tant que ça, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, il y a de la mémoire, il y a des choses, bon, mais je crois pas tellement à la permanence des choses, alors je crois plutôt à leur fragilité, à la porosité, je crois pas qu'il y ait un endroit qui serait, oui, l'espèce de lieu secret où tout serait là, une espèce de vérité inaliénable, irréductible, et tout ça. Je crois pas à ça. Alors, je crois pas à ça, et c'est pour ça que une fois encore, que je reprends cette expression de Sarraute là sur les mouvements psychiques, parce que j'aime bien l'idée de plaques tectoniques et je crois plus volontiers à ça. Et ce que j'aime dans le roman, par exemple, c'est que vous pouvez faire dire à un personnage quelque chose qui sera pour le lecteur perçu comme une vérité, dire exactement le contraire 30 pages plus tard, qui sera aussi une vérité. Et après, du coup, l'interprétation du lecteur, c'est à lui de la faire. Mais pour moi, c'est important d'essayer de naviguer, de passer comme ça dans ce mouvement-là, et pas d'aller chercher un endroit qui serait la vérité, parce que ça, c'est-à-dire la vérité, ce serait l'endroit où on pourrait comme ça, d'un seul coup, pour ne plus écrire, ne avoir cette espèce d'endroit qui serait. Alors la question du secret là-dedans, pour moi, je sais pas comment. Espèce de zone. Alors pour le coup, ce serait cette espèce de jeu entre les. C'est pour ça que je parlais de surface. Disons que je pense que c'est pas si profond que ça, en fait. Je sais pas ce que c'est que la profondeur. Vraiment, je sais pas. Et puis, alors évidemment, comme moi j'écris par. C'est des mouvements de spirale plutôt, mais qui s'arrêtent toujours à un moment donné et bien avant qu'on soit au troisième sous-sol, quoi. Je m'arrête bien avant. Parce que ça renvoie forcément ailleurs. Donc peut-être qu'on aurait tendance à vouloir aller chercher plus une spirale descendante, mais elle est toujours renvoyée à. Elle est toujours biaisée, j'ai envie de dire. Elle est renvoyée comme ça, tac. On croit qu'elle peut descendre, mais en même temps, en descendant, elle est renvoyée. Mmh. Et voilà, pour moi, c'est fuyant. Il y a quelque chose de fuyant, il y a quelque chose de. Voilà, pour moi, l'expérience de l'écriture, elle me mène là par rapport à cette question-là. Et puis, il y a quelque chose que je trouve dans l'idée de profondeur. D'abord, je trouverais ça très, très prétentieux. Au fond, je trouverais ça une espèce d'humanisme trop rassurant et trop. Non, peut-être qu'il n'y a rien et que c'est peut-être pas très grave non plus. Enfin, vous voyez, ça nous rassurerait bien qu'il y ait de la profondeur, mais peut-être qu'il n'y en a pas. Voilà, j'ai pas de savoir, moi, sur ça. J'ai pas de certitude là-dessus. C'est pour ça que je suis toujours embêté avec ces histoires de profondeur ou de. Je trouve que c'est des mots très imposants. Et moi, j'essaie d'écrire avec des mots pas imposants. J'essaie j'écris pas pour affirmer ce que je pense ou ce que je penserais moi en tant qu'individu. Ça m'intéresse pas. Moi, j'écris pour me formuler à moi-même les questions que je me pose, mais pas pour donner des réponses, surtout si je les ai pas, quoi. Et puis, ouais, dans la profondeur, il y aurait quand même. Ça sent un peu le bronze et le marbre, quand même. Il y a un truc que je le sens pas du tout, en fait. Donc, moi, ce que je cherche, c'est le mouvement, c'est être quelque chose où est la vie. Et la vie, pour moi, elle est dans les interstices, elle est dans les zones de doute, de fragilité, de vibrations, moi j'essaie plutôt de chercher ça, c'est pour ça le mot surface il n'est pas juste non plus, mais scalpel, profondeur et tout ça, à chaque fois en fait, mais ça c'est pareil, c'est aussi une réponse à ce que j'entends, alors c'est vrai que parfois je suis un peu réactif par rapport à ce que j'entends, où je peux lire dans la presse, tout ça, et ouais, la profondeur de l'âme humaine, je me dis tiens c'est quand même marrant, on est au 21e siècle, c'est des vocabulaires qui sont, enfin c'est pas... profondeur de l'âme humaine, je sais pas si ça des abîmes de perplexité, oui ça je vois, mais voilà, pour moi c'est des questions, je veux pas affirmer ça en littérature, ça me paraît pour moi c'est un lieu de doute, c'est pas un lieu d'affirmation de certitude en tout cas.
Mais c'est peut-être aussi pour ça que le roman est votre outil d'écriture de prédilection, parce qu'après tout le roman c'est du récit, c'est du linéaire, c'est pas de la profondeur. Je veux dire, c'est pas une profondeur, c'est pas la profondeur de champ de l'image. Vous avez des champs superposés. Finalement, dans le récit, ce qui se construit, le dévoilement du secret, il est linéaire. Il est dans l'agencement, dans l'art de l'agencement, de la succession des temps, c'est exactement ce que vous dites.
Oui, complètement.
Donc on a surtout l'impression que dans vos romans, et de plus en plus, je trouve, hein, avec Dans la foule des hommes, etc., il y a de plus en plus une stratégie du suspense, du coup, qu'on peut dire psychologique, mais c'est du suspense de la psyché, quoi. Enfin voilà, du suspense du souvenir, etc., ouais. Qui joue sur l'agencement de la narration. Et que c'est pas tellement, effectivement, dans la profondeur des pensées, de la pensée des mots, mais dans la superposition, dans l'agencement par le lecteur, selon les propositions que vous lui faites, de ces différents moments que, finalement, le secret arrive, quoi. Et voilà, c'est pour ça que c'est du roman, c'est parce que c'est du récit aussi, c'est de la narration.
Oui, c'est du récit, bien sûr. Ouais.
Mais d'ailleurs, dans Apprendre à finir, je pense que le piège aussi de Apprendre à finir, c'est que c'était un monologue. Et donc, du coup, effectivement, l'impression de psychologie est très, très forte, parce que c'est une parole, c'est l'entrée dans une pensée. Mais quand on lit « Apprendre à finir », on se rend bien compte qu'en fait, c'est presque une pièce en plusieurs actes. Hein, et on voit le temps passer de la guérison, donc du mari qui est revenu à la maison, et on voit bien à quel point, en fait, la parole est là. Bien sûr, le réel n'est jamais nommé de l'extérieur avec des noms de rue, etc., mais on voit bien qu'il y a une dramaturgie très, très forte de la parole. En fait.
Oui, mais c'est pour
pas
ça.
Une profondeur, une dramaturgie.
Oui, mais c'est pour ça. Je suis tellement occupé à résoudre ce genre de questions-là que, du coup, quand on me parle après de profondeur, je veux bien, mais en même temps, c'est pas du tout mon problème, en fait. Moi, concrètement, mon problème, c'est comment je fais avancer ce récit jusqu'au bout, comment j'essaie d'en déployer le plus de modalités possibles, d'essayer de dire voilà, je prends quelques éléments et j'essaie de voir tout le possible que je peux déployer avec ça. Et y compris dans les contradictions et dans les donc voilà, moi c'est mon problème, il est là, et parce qu'évidemment le roman, il y a de la temporalité, il y a des espaces et du temps, et moi c'est vrai qu'évidemment, du coup, la question de la mémoire, elle est là, la question mais c'est marrant ça, parce que par exemple Proust, il croyait qu'il était très fort en psychologie, et il pensait que c'était la qualité première de la recherche. Je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui pour ça qu'on lise la recherche. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a tendance à coller certains mots comme ça, psychologie, etc., profondeur, ou qui sont quand même tout ça des lieux communs, alors qu'en fait, il se passe dans l'opération d'écriture, il se passe tellement d'autres choses que ça peut être des éléments qui existent, mais en tout cas, ils font partie d'un ensemble.
Effets,
et c'est vrai que, par exemple, c'est vrai que, notamment dans Apprendre à finir, mais je pense que c'est vrai à peu près dans tous mes livres, il y a toujours ce rapport à la temporalité. Dans une phrase, comme elles ont tendance à être un peu longues, évidemment, une phrase peut brasser plusieurs périodes de temps et de strates comme ça de mémoire. Ce qui donne peut-être cette impression-là, comme ça, très psychologique, mais moi, au moment de l'écriture, c'est pas une question c'est une question de dramaturgie, c'est une question c'est une question de narration, c'est une question comment, puis vraiment, mais ça marche, pour le coup, ça marche comme marcherait un roman policier, quoi. C'est-à-dire même si, quand la femme, pour rester sur ce livre-là, quand la femme regarde, se pose la question, est-ce que le téléphone a bougé ou pas? Voilà, pour moi, ça va être comment je peux étirer ça au maximum, c'est-à-dire qu'il y a zéro événement. Et justement, toute la question est de savoir s'il y a eu événement ou pas. Et l'événement, ce serait juste qu'il ait passé un coup de fil. Bon. Mais pour elle, évidemment, c'est énorme, ce que ça signifie. Et donc, moi, ça va être de créer l'image et de créer la relation entre la narratrice et l'image. Et ça passe par plein de renvois, plein de petits éléments, plein de choses. Comment ça interpelle après le lecteur dans son propre imaginaire, dans sa propre angoisse. Alors évidemment, ça, je sais que c'est vrai que j'ai tendance à le faire de plus en plus, en fait. Mais c'est vrai que c'est toujours sur des éléments qui sont très infimes.
Alors justement, vous dites, vous commencez à nous parler un peu de ce avec quoi vous vous débattez quand vous écrivez. Et j'ai pas mal ri quand j'ai vu une réponse que vous aviez faite à un autre journaliste. qui vous demandait si, finalement, avec l'expérience, vos intentions étaient plus claires aujourd'hui quand vous écriviez. Et alors, vous lui disiez, ben non, au contraire, mes intentions s'obscurcissent. Mais ça n'avait pas l'air de beaucoup vous affliger, hein, parce que ce que vous lui expliquiez, c'est que, je pense que ce qui venait plutôt avec l'expérience, c'était la capacité de travailler avec ces intentions obscures et de leur laisser une place dans l'écriture du roman et d'utiliser ces imprévus, ces points d'aveuglement dans l'écriture. Et que c'est important de les saisir. Et alors, vous avez complété par une citation que j'aime beaucoup. Vous lui avez dit « Il faut que quelque chose salope le projet. Il faut faire sortir les personnages du cadre. » Voilà, que ce ne soit pas parfait, bien écrit, en fait. Alors, je voulais savoir si vous aviez des souvenirs à partager avec nous de ces moments où, d'imprévu, en fait, vous étiez en train d'écrire un roman, et puis tout à coup, il y a un événement qui est venu, entre guillemets, comme vous le dites, saloper le projet, c'est-à-dire que tout n'était pas comme vous l'aviez prévu, et vous avez réussi à faire sortir...
ça arrive à tous les livres, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Moi, j'écris le matin... En général, bon. J'écris le matin, j'ai un peu l'idée de ce que je veux faire. Alors, je relis ce que j'ai fait, je retravaille ce que j'ai écrit, et là, je choisis de garder ou pas certaines choses. Bon. Voilà, je continue, je laisse, il me faut quand même 3-4 heures pour vraiment que la machine soit vraiment parte, et à un moment, ça part, où j'ai vraiment un moment comme ça, d'une ou deux pages qui viennent, avec plus ou moins ce que j'avais prévu. Avec la relecture du matin, donc je suis dans un rythme, dans une. Et à ce moment-là, parfois il arrive qu'il y a une phrase, ou un bout de phrase, comme ça, peut-être une petite hypothèse, comme ça, qui vient et qui n'était pas prévu. Mais ça peut être, c'est un détail, hein, ça peut être un détail. Par exemple, un numéro de téléphone est écrit sur la main, c'est ce qui s'était passé pour Dans la foule. Après, je me dis, tiens, pourquoi ça, pourquoi ce truc-là, bon. Et l'après-midi, je vais repenser à ce que j'ai fait le matin, comme ça, je vais faire que ça, je vais rien faire d'autre, je vais repenser à cette histoire-là, je me dis, tiens, mais pourquoi ce truc-là, est-ce que je le garde, est-ce que je l'enlève. Et puis après, je me dis, ah ouais, mais ça peut être pas mal que plus loin, peut-être qu'il peut se passer ça, quoi, avec ça. Et c'est vrai que ça, parfois, ça nourrit des choses. Parfois, j'y pense même pas, alors c'est très troublant, des... Il y avait ça, par exemple, pour des hommes. Toute la fin du livre, l'idée de la glissade comme ça, en fait, elle est déjà inscrite au début du livre. À un moment, quand il rentre avec sa femme, Rabu, sa femme lui dit « Fais attention, tu roules trop à droite. » Et ça, je me suis pas vu l'écrire. Et sauf que quand j'ai trouvé l'idée à la fin, j'étais super content. Et en relisant après, en retravaillant, en corrigeant le manuscrit, je me suis dit, tiens, en fait, c'était déjà là. Et ça, je ne l'avais pas vu, en fait. Je ne l'avais pas vraiment vu. Et ça, c'est, voilà, moi, c'est des choses que j'aime laisser disponibles. J'aime que le texte ouvre. Parce que si c'est exactement ce qu'on a envie de faire, ça peut être pas mal, mais ça sera juste ce qu'on a envie de faire. Ce qui est bien, c'est quand le roman, on le découvre aussi en l'écrivant. Et pour ça, il faut accepter qu'il y ait de l'écart avec ce qui était prévu. Donc écrire souvent sur des périodes assez longues, c'est aussi bien pour ça. C'est qu'à un moment, on a son cadre, on a un petit peu, on se dit tiens, voilà, l'histoire, c'est à peu près ça. On a le mouvement général, on a un point A, on veut aller à un point C, mais bon, il faudra trouver le B quelque part, quoi, qui se promène. Et c'est bien quand il est un peu plus compliqué que. Alors moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est penser des éléments, mais qui sont a priori que je pourrais jamais réunir, quoi. Finalement, à force de tourner autour, ils se réunissent quand même, et par des détours, par des biais inattendus. Et moi, de ce point de vue-là, je fais vraiment confiance à l'écriture elle-même pour savoir où elle veut aller, tout en disant bien, par contre, que c'est pareil dans la série des choses qu'on entend dire sur le laisser l'écriture venir à soi comme quelque chose qui serait une espèce de transe ou d'inspirer. C'est pas ça non plus. C'est que pour écrire, il faut écrire. Il faut écrire beaucoup avant que ça arrive, en fait. Que parfois, ça arrive. Pour ce petit étincelle-là, cette petite étincelle, il faut aller la chercher, en fait. C'est pas du tout un truc qui vous tombe dessus. Enfin, si, ça vous tombe dessus à un moment donné, mais c'est plutôt un lâcher-prise. C'est le lâcher-prise qui est difficile à trouver. Sachant que c'est un lâcher-prise dans un cadre que vous définissez, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est pas du tout... Moi, je crois absolument pas à la vocation ou au don de la littérature comme ça qui vous tombe. Voilà, non. Je pense par contre que à un moment, vous vous mettez dans la disponibilité, pour le coup psychologique, de laisser que les choses se passent. Après, sachant que de toute façon, après, c'est tellement retravaillé que tout ça, c'est quand même. Voilà, pour moi, c'est un mouvement à trouver entre une réflexion, un travail très volontariste, choisi, déterminé, et des moments qui sont plus aléatoires. Pour moi, l'idée d'incorporer. Mais ça, alors là, ça vient sans doute des arts plastiques, c'est des méthodes de peinture, comment incorporer l'accident le geste en peinture, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que il y a toujours le risque d'avoir des textes trop lisses ou trop convenus formellement, quoi. Pour moi, il y a quelque chose à casser. Quand je disais saloper le texte, c'était un peu, ouais, c'était quand même vraiment dans l'idée de le salir, quoi. Et y compris d'ailleurs dans le contenu du texte. C'est-à-dire, quand un personnage devient un peu trop clair pour moi, le lâcher-prise a toujours tendance à aller dans le sens de me le rendre plus compliqué. C'est-à-dire, à un moment, tiens, bah non, finalement, il va dire quelque chose que... Ça va pas tellement avec son trait de caractère. Et alors ça, du coup, j'aime bien. Alors ça me rend la tâche plus difficile, donc ça m'intéresse. Je me dis, ouais, ce que j'aime bien avec les personnages, quand on passe beaucoup de temps avec eux, c'est qu'ils se laissent pas faire. Et ça, c'est bien. Il faut aller trouver dans les contradictions quelque chose qui puisse nourrir le roman et pas. Parfois, c'est complètement à côté de la plaque, donc dans ce cas-là, on laisse tomber. Mais il y a quand même quelque chose comme ça.
Dans ces contradictions-là, je pense qu'il y a quelque chose à quel vous devez beaucoup tenir, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, et puis de toute façon, je pense que ça se voit vraiment. Je ne sais pas si les autres lecteurs sont d'accord, mais c'est vraiment l'absence de clivage entre les bourreaux et les victimes. Et ça, et la position éthique que vous avez là-dessus. Et c'est très visible dans Des Hommes, hein, où il y a... Enfin, voilà, où il n'y a pas les bons, les méchants. Mais c'est même pas, si vous voulez, que... Il y aurait des bons d'un côté, il y aurait des bons des deux côtés et des méchants des deux côtés. C'est même pas ça. C'est que dans un même personnage, il peut y avoir des bons et des méchants. Et le livre est construit d'ailleurs comme ça, c'est-à-dire que Bernard, donc le personnage principal, qui a une attitude odieusement raciste en fait au début du livre, toute son histoire se trouve déployée dans...
Odieusement raciste.
Non, mais enfin voilà, odieusement raciste, je veux dire parce que. Il a un comportement raciste et évidemment, ça crée un obstacle à l'empathie pour le lecteur. Et donc toute son histoire est déployée dans la suite du roman et c'est un personnage qui prend alors du coup une épaisseur, peut-être pas dire une profondeur, mais une épaisseur,
oui, voilà,
on va dire, une épaisseur, et qui à un moment donné devient victime. Enfin, je veux dire victime, on ne dira pas victime des événements. Enfin. Il y a un destin qui se met en marche à un moment donné, à partir d'une coïncidence, qui fait de lui la victime d'une coïncidence, hein, comme dans une tragédie. Et du coup, évidemment, ce n'est pas forcément une justification de son attitude, mais tout coup, ce personnage devient impossible à juger. Enfin, je veux dire, c'est très difficile d'avoir une position... comment dire ? La position morale par rapport à lui... c'est pas qu'elle est impossible, c'est qu'elle est multiple en fait, et qu'elle correspond à différents états de son histoire, etc. C'est un livre qui, de ce point de vue-là, je trouve, est admirablement construit et très très intéressant, et qui fait vraiment beaucoup réfléchir sur la notion d'empathie et de sympathie, qui est évidemment au cœur du fonctionnement de la fiction. Et c'était déjà le cas dans votre roman Ceux d'à côté, qui mettait en scène un personnage de violeur. Et d'ailleurs, c'est un roman qui est très peu commenté dans votre œuvre. Il y a sûrement des raisons.
Ah oui, non, c'était ça, c'est. Ouais, mais alors ça, bon, sur ce d'à côté.
Voilà. C'est juste une remarque.
Mais non, c'est vrai que pour Des Hommes, c'est vrai que je me disais, bon, la guerre d'Algérie, c'est quand même très difficile à manier. Et puis, justement, parce que très souvent, les livres ou les films, d'ailleurs, très souvent se posent en. Mais bon, c'est un problème avec les rapports à la guerre, pas seulement la guerre d'Algérie, mais plus encore avec celle-ci. ont tendance à vouloir expliquer et vouloir démontrer. C'est-à-dire qu'on voit l'auteur qui veut dire son expérience, qui veut dire, alors tout ça, je juge pas ça, c'est très bien, mais c'est littérairement pas très efficace, en fait, je trouve. Et du coup, on sait on sait très vite si l'auteur, de quel côté de l'histoire se met l'auteur, quoi. Et alors, bon, moi, je me dis, ça rend compte de rien, en fait, ça. C'est quelque chose. Moi, l'idée, c'est d'essayer de partager une expérience, mais le problème, c'est qu'on a tendance à trop penser, à trop réfléchir, On n'est pas assez idiot pour ça. Et écrire un roman, il faut vraiment passer son temps à se rendre plus idiot. Alors, c'est vrai que c'est un peu un lieu commun de le dire, ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, non, juge pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, c'est la nuit, t'as un fusil. Qu'est-ce que c'est avoir peur, avoir 20 ans, venir de sa campagne comme ça, et essayer de vraiment de réduire, de rester vraiment sur la sensation, sur le moment, sur la perception, et d'essayer de ne pas porter, toi, de jugement comme ça qui serait surplombant, donc plombant, et d'essayer vraiment d'éviter ça, quoi. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de capital. Alors évidemment, j'y pensais beaucoup avec ce livre-là, mais c'est vrai que ça avait commencé avant, parce que, par exemple, pour Dans la foule, un critique m'avait reproché d'avoir fait un livre sur le bien alors qu'on attendait un livre sur le mal. Ça m'avait vachement troublé parce que, bon, on était en pleine période George Bush. Et alors, les discours sur le bien et le mal, on en entendait quand même beaucoup. Et quand même, je disais, mais qu'est-ce que la littérature a à voir là-dedans? Et en même temps, ça m'intéressait parce que je voyais bien ce qu'il voulait dire. Et je me disais, mais comment sortir de ce schéma de pensée, en fait? Pour moi, l'écriture du roman, justement, c'est prendre le temps d'accompagner des expériences et du coup peut-être de sortir de ces schémas, de ces trucs un peu prémâchés, de ces notions comme ça qui rendent peut-être pas très bien compte du réel, de la vie. Donc essayer d'écrire des livres, ouais, qui sortent un petit peu des jugements moraux ou des jugements comme ça un peu trop hâtifs, dans un sens ou dans l'autre. Et ça avait commencé effectivement avec Ceux d'à côté, qui était un livre que j'avais fait un peu en réaction, pour le coup, Prendre à finir. Parce que pour moi, c'est vrai que quand on me disait, ouais, votre héroïne et tout ça, là, vous comprenez bien les gens, tout ça, ce petit côté genre idéal qui est un petit peu, c'est vraiment le caillou dans la chaussure, on se sent un peu pas bien avec ça, ça va pas. Et donc, moi, ça me posait vraiment un problème parce que je me disais, mais si jamais je vous donne un personnage que vous n'avez pas du tout envie de voir, alors si j'essaie de comprendre, je ne dis pas de justifier, mais simplement de comprendre comme un mécanisme quelqu'un qui ne vous plaît pas, comment ça va se passer? Et ceux d'à côté, ça a été ça. Et la réponse, c'était très curieux dans ce que j'entendais, c'était très, très, très violent. Très violent. Des gens, ils disaient, mais un violeur, ce n'est pas possible. On aurait préféré, pourquoi il ne tue pas la fille plutôt? Ouais, ok. mais des choses comme ça, c'est très troublant quand vous entendez des choses comme ça. Est-ce que vous... Moi, par exemple, ce livre-là, je m'étais vraiment employé, pour le coup, à ne pas écrire le mot violeur pendant tout le livre. Et je me souviens de quelqu'un qui avait fait une notule dans un journal, il y avait 6 fois le mot viol et violeur en 2 lignes, quoi. Et je me disais, tiens, c'est quand même, ça, c'est un objet dont on sent qu'on. Je ne l'ai peut-être pas fait adroitement, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, mais je me dis, tiens, ça soulève quelque chose. Et pour moi, j'ai appris quelque chose avec ça. Et je pense que ça m'a servi beaucoup pour des hommes, en sachant que j'allais manier des choses qui, notamment le racisme, qui sont très difficiles à utiliser, parce que la question n'est pas de justifier le personnage, mais simplement d'essayer de comprendre. De comprendre comment ça fonctionne, comment on en arrive là dans sa vie, comment quelqu'un peut devenir une épave, et ce type d'épave là précisément, parce que j'en ai vu, parce que j'en ai connu, etc. Et ça, je pense que le roman ou la fiction, mais peut-être plus le roman d'ailleurs que le cinéma ou le théâtre, je pense que le roman, de ce point de vue là a vraiment une extraordinaire capacité, c'est qu'il peut prendre son temps. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... Je crois qu'il y a à peu près... C'est le seul art qui peut prendre son temps. Le cinéma, on est pressé parce qu'une projection, c'est 2 heures. Si 2h30, on commence à regarder sa montre, tout ça. Un livre, on peut passer 10 heures sur un livre. Et y revenir, lire tous les soirs un peu. On n'a pas du tout le même rapport au temps. Pour le coup, c'est un objet qui n'est pas de notre époque. Et ça, C'est fort, parce que quand vous voyez aujourd'hui la télévision, je me souviens de ça pour Dans la foule, on prend pas le temps de s'arrêter sur les victimes. Alors, vous voyez, les victimes, c'est un type la gueule en sang. Et une victime, on n'a même pas le temps de prendre son nom, de connaître son histoire. On sait rien. Ce qu'il devient le lendemain, on s'en fout. Et le surlendemain, encore plus. Et le roman peut prendre ce temps-là d'essayer de comprendre comment quelqu'un est bouleversé au sens littéral par un événement. Quoi. Et moi, c'est aussi ça qui m'intéresse aujourd'hui. Là, par exemple, dans le projet que j'ai en ce moment, au contraire, ce serait plutôt des histoires courtes, dans un seul livre, mais avec des histoires courtes. L'idée, un petit peu, vous voyez, on croise des gens comme ça, ce rapport à l'immédiateté d'une image, qu'est-ce qui est derrière cette image? Vous voyez, par exemple, vous promenez à Paris, vous rencontrez, vous croisez un couple, tiens, ils ont 30 ans de différence, c'est quoi leur histoire? Moi, je dis, tiens, par exemple, pour un livre sur le bonheur, ça pourrait être ça, d'imaginer une histoire d'amour comme ça. Mais alors, moi, tout de suite, j'imagine qu'en fait, le type, évidemment, a piqué la petite copine à son fils, c'est une horreur. Et des trucs comme ça, quoi, vous voyez. Mais moi, ça m'intéresse. Parce que le roman, je pense, le roman peut prendre ce temps-là. Mmh. Et aujourd'hui, on ne prend pas ce temps.
On a l'impression, du coup, aussi qu'avec, après cette décennie d'écriture, vous prenez, mais c'est peut-être ce que vous disiez aussi, hein, que vous interdisiez beaucoup de choses au début, notamment par rapport à la psychologie, etc., mais que vous exploitez. Vous assumez plus la dimension romanesque du roman. Et ça se voit à travers les effets de génération autour de la guerre d'Algérie, ça se voit à partir de l'usage de l'histoire, etc. Peut-être que vous pourriez peut-être en dire plus sur l'usage de ce genre du roman qui, au début, quand, dans votre génération à vous, étudiant des beaux-arts, voilà, c'était
ah bah vous disiez Guillotin. C'était l'interdit total, voilà. Quoi. Le personnage et le roman, quoi. C'était vraiment, il y avait une suspicion terrible, quoi. Mais que je comprends, hein, qu'il y a une époque. Je ne juge pas ça, d'ailleurs. C'est pas. Mais du coup, je me dis. Que finalement, le roman, c'est le dernier tabou des avant-gardes. Donc, c'est la tentation totale en même temps. Il y a eu ça, puis au fur et à mesure, les barrières sont tombées de ça. La question étant plutôt comment faire du roman autrement, comment essayer de réinterroger le roman, sans être non plus dans le nouveau roman, enfin, sans être. Parce que là, il faut soupçonner aussi l'air du soupçon. Enfin, donc on n'arrête pas. Et puis on est aussi à une époque où on a beaucoup entendu les romanciers français. Ils ont toujours leur petit moi qui les chagrine. Le romancier français, il n'arrive pas à faire un livre de plus de 130 pages. Il s'évanouit. C'est un peu comme un joueur de tennis en fait, voyez. Alors, je disais quand même, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que comment ça marche tout ça? Alors, puis on regarde le roman international comme ça, évidemment le roman américain, mais pas seulement américain. Les Espagnols sont très impressionnants aussi, et d'autres. Donc moi, c'est vrai que ça me posait des questions. Et puis voilà, pour moi, c'est un des enjeux, pas seulement de ce que j'écris, mais je pense de la littérature contemporaine. Comment dans un monde complètement mondialisé, pour le coup, les arts plastiques ont fait ce saut-là. Et c'est vrai que la littérature a tendance à rester quand même encore un peu, à avoir du mal à se poser la question de comment écrivent les autres, pourquoi, comment, enfin, qu'est-ce que nous on peut dire, faire, ou voilà. Donc moi, c'est à un moment, c'était aussi cette question-là, la question du roman, pour moi, se pose aussi en ces termes-là.
Et dans La foule, par exemple, ça a été une sorte de pensée de plonger dans le romanesque un peu plus ambitieuse, enfin, est-ce qu'il y a eu des tournants comme ça entre certains livres?
Ouais,
possibilités de ce genre.
Ouais, puis il y a des, en plus, en fait, le truc, je fais semblant de théoriser ça après, a posteriori, mais sur le moment, je lis Outre-Monde de Lillo, je vois le début avec le match de baseball, moi je dis mais je veux faire ça en fait, je veux faire ça. Il y a ce truc là, bon, puis je laisse tomber, je dis bon, ok. Et puis un jour, il se trouve le 11 septembre arrive, on voit cette espèce de. Moi, je trouve ça change la littérature, ça change quelque chose. C'est un événement planétaire qui ressemble à de la fiction. Si un écrivain se pose pas de questions là-dessus, c'est que là, franchement, il a du souci à se faire. Et moi, le souci, en tout cas, qui a été le mien à ce moment-là, c'était de me dire, tiens, mais c'est curieux parce que cette impression que le réel rentrait chez moi. par la télévision, alors que c'était des images surfictionnelles, presque, on pourrait dire. Je me suis dit, tiens, mais j'ai déjà eu la sensation de vivre ça, et c'était le Ezel, en fait. Le Ezel, donc voilà, pour moi... donc pour moi, évidemment, du coup, la question du roman avec le livre de Delillo, avec tout ça, c'est voilà, pour moi, tout ça, ça nourrit quelque chose qui, à un moment, la question aussi, peut-être, c'est est-ce que j'avais les moyens techniques d'assumer l'écriture d'un livre, etc., quoi, de ce type de livre. Donc voilà, mais après, c'est toujours des questions, mais qui chacun...
Vous étiez plutôt perçu comme un écrivain de l'intime, c'est ça?
Oui, mais ça, c'est pareil, ça m'énerve à chaque fois, ça. Non, parce que, en fait, les gens, vous avez écrit 1, 2 livres, 3 livres, les gens vous disent qui vous êtes, ils ont bien de la chance de le savoir, moi, je le sais pas. Alors, à chaque fois, ça me... Je dis, non, je suis pas là, je sais pas, moi, ce que je suis, l'intime, mais d'accord, mais la guerre d'Algérie, elle est déjà dans mes premiers livres, et puis l'intime, pour moi, elle est dans les autres, elle est aussi... Il est aussi cette question-là se pose aussi pour dans la foule ou pour des hommes. Enfin, tout ça va pas. C'est pas. Je suis un peu rétif aux étiquettes en fait. Pour ça, psychologique, intime et tout ça. C'est des. Je me méfie des mots qui seraient totalisants comme ça, qui voudraient dire voilà, lui est écrivain comme ça. Moi, je sais pas. J'ai l'impression de chercher d'écrire. Peut-être, j'ai peut-être la réponse. Peut-être que j'écris pour ça, pour essayer de ne pas me limiter à quelques mots qui pourraient circonscrire.
Continuer à écrire à cause de ça.
Oui, d'essayer de vraiment de trouver, d'être une fois encore peut-être dans la contradiction. L'intime, ben non, c'est pas que ça. Je dis pas que c'est pas ça. Je dis pas que c'est faux comme image ou comme idée, mais ça me suffit pas. Je me sens l'intime, oui, mais enfin, il y a plein d'écrivains de l'intime dans ce cas-là. Enfin, je sais pas ce que ça, je trouve ça pas très satisfaisant, quoi. Je sais pas si c'est très satisfaisant. Alors voilà, du coup, enfin, mais pour moi, peut-être, je peux pas savoir la perception qu'on a des livres des uns et des autres. Moi, mon problème à ce moment-là, c'est quand même comment on fait pour continuer, comment on fait. Moi, je me dis pas en commençant un livre. Bon, là, je vais faire un roman de l'intime ce matin. Jamais.
Justement, j'ai beaucoup ri à votre réaction quand je vous ai rappelé une phrase que vous aviez eue quand vous parliez des hommes qui étaient encore en projet. Vous souvenez? Et alors, vous parliez du personnage de Bernard, parce que le personnage de Bernard est déjà apparu dans la foule, puisque c'est l'oncle d'un des héros, pour utiliser ce terme-là.
Ouais, ouais.
Voilà. Et donc, vous parliez à un journaliste du prochain livre, qui était des hommes, et vous disiez oui, parce que voilà, je voudrais raconter l'histoire de Bernard, qui en fait est un ancien de la guerre d'Algérie, c'est pour ça qu'il est devenu alcoolique. Voilà. Et puis en fait, je voudrais saisir l'occasion de ça pour faire revenir Bernard dans son petit village. Et avec Bernard, disiez-vous, je voudrais montrer la naissance des zones pavillonnaires. Quand j'ai lu ça, je suis tombée de ma chaise et j'ai dit, c'est incroyable. En fait, Movigny, c'est Balzac, quoi.
Ben ouais.
Boum. C'est très drôle parce que après, donc, on lit Des Hommes, qui est quand même très centré sur justement l'histoire de la guerre d'Algérie. Et moi, j'avais pas vu ça dans Des Hommes. Tout à coup, je me dis, ah, mais c'est vrai, il y a la naissance de la zone pavillonnaire dans Les Hommes. Alors, du coup, j'ai relu Des Hommes avec le projet de Laurent Movigny en tête.
Mais ça y est, dedans.
Mais c'est dedans. Et donc,
on est peut-être que deux à le voir, mais.
Mais
c'est dedans.
Je me suis dit, voilà. En fait, Movigny, c'est Balzac. En fait, il y a un désir sociologique chez Laurent Movigny. Donc, voilà.
Bah, disons que le problème, c'est à partir du moment où on fait du roman. Et qu'on parle de quelque chose, qu'on a comme, qui dirait, un complément d'objet, qui n'est pas que l'écriture pour elle-même. Évidemment, on se pose des questions qui sont liées au monde dans lequel on vit. Et donc, forcément, Balzac, quoi. Et alors aussi, peut-être parce que je suis tourangeau et que peut-être Balzac était une figure emblématique dans mon enfance, je ne sais pas. Mais en même temps, moi, ce qui me plaît chez Balzac, par exemple, c'est la dimension, pour le coup, programmatique. Mm-hmm. Ça, j'aime bien ça. Je suis complètement incapable d'être, je fonctionne pas du tout comme ça, mais c'est quelque chose qui me fascine assez, cette folie-là.
Si vous avez des petits schémas maintenant, si.
Ouais, non, mais quand même, parce que non, ce qui me fascine, c'est Balzac réclamant son médecin, Bianchon, j'ai plus le nom du personnage. Si quelqu'un sait ça. Il réclame, voilà, quand il est en train de mourir, il réclame son médecin, sauf qu'évidemment, son médecin n'existe pas, quoi. Moi, ça me touche beaucoup, par exemple. Créer un monde comme ça qui soit.
Qui a une puissance.
Qui a une puissance presque.
Hypnotique.
Oui, et puis presque autonome, en fait, qui peut presque, du coup, pour le coup, concurrencer le réel. Je pense que nous, notre problématique, elle n'est pas de concurrencer le réel, par exemple. Peut-être de concurrencer le cinéma, mais certainement pas le réel. Donc voilà, après la question, la dimension sociologique et tout ça, oui, au fond, ça m'intéresse, mais est-ce que c'est tant que ça, de la sociologie? Parce que finalement, poser la question, pour moi, de la naissance des zones pavillonnaires, d'une certaine manière, je pense à une zone pavillonnaire, c'est celle qui est née en même temps que moi, donc peut-être que c'est une espèce d'autobiographie déguisée, donc peut-être que c'est encore complètement psychologique, en fait. Donc on peut pas savoir. C'est pour ça qu'il faut écrire, un livre pour dire, bon, peut-être je pourrais faire un truc avec un écrivain qui voudrait comprendre ce que c'est qu'une zone pavillonnaire, et le type, il retournerait là-dedans, et puis en fait, il comprendrait pas, enfin, voilà. Voilà, après, c'est comme ça. C'est aussi comme ça que naissent les livres. Le problème, c'est qu'un livre a toujours... Il y a toujours un paragraphe ou une page ou un truc qui déplace un problème. Et du coup, trois livres plus tard, vous répondez à cette page-là. Vous n'avez peut-être pas de réponse, mais vous répondez à cette page-là, en tout cas. Il y a un effet comme ça de boule de neige par rapport à l'écriture, d'entraînement. Ouais.
C'est ce que vous disiez aussi sur le fait que la guerre d'Algérie est sous-jacente dès les premiers romans, puisque en fait les personnages masculins qui apparaissent dans vos livres, qui sont souvent la figure paternelle, ont fait la guerre d'Algérie. Et c'est dit, c'est même pas dit la guerre d'Algérie, hein, c'est sa guerre, etc.
Ouais.
Et puis voilà, 10 ans plus tard, ça devient le thème d'un livre. Quoi. Donc
voilà.
Merci beaucoup. Je vous propose de vous laisser la parole. Voilà, donc je pense que Laurent Mauvigny répondra avec plaisir à vos questions, après avoir été assailli par les miennes. Merci beaucoup. Alors, il y a un micro qui va circuler parmi vous, donc surtout n'hésitez pas.
Alors, merci pour ce brillant exposé, ces entretiens. Enfin, je n'ai jamais lu M. Laurent Mauvigny, ça, je ne ferai pas de commentaires, donc. Mais une chose est certaine, c'est qu'à la sortie, nous ne saurons toujours pas qui est Laurent Mauvigny. Voilà, c'était tout.
Alors, Laurent Mauvigny, sa vie, son œuvre.
Oui, non, je sais pas. Ouais, je sais pas si c'est très intéressant. Ouais, non, mais c'est en même temps, cette boutade-là me pose toujours me pose la question de la participation dans les débats et tout ça, dans les rencontres comme ça. Parce qu'effectivement, le truc, c'est de parler 1h30 pour qu'à la fin on ne sache rien quand même.
De vous.
Bah oui,
vous, on s'en fiche.
Non, mais pour le reste, parce que pour le reste, j'ai l'impression de pas le savoir non plus vraiment sur l'écriture et tout ça. Voilà, exactement, voilà. C'est déjà pas mal. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, moi, c'est tout le contraire. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi sincère. Et vous décrivez votre travail avec une telle, je veux dire, modestie, bêtement, hein, avec vos problèmes, vos soucis, vos difficultés pour mettre la mécanique en marche, vos ratages, et à chaque fois vous revenez sur la chose. Et en plus, je vous trouve très, très, très sincère et très vous-même. Donc, en effet, il y a personne de vraiment dessiné. Il y a un être qui est en marche et qui invente et qui revient et qui rate et qui réussit. Donc, pour moi, c'était parfait. Voilà.
Une autre question ou une autre intervention dans la salle, monsieur?
Je ne connais pas votre œuvre, voilà, mais ça a l'air intéressant. Et j'aurais voulu savoir, parfois, si y a un peu d'espoir ou si on peut par moment oui, comme vous aimez un peu le mouvement, que ça, vous voulez pas trop être quand même que dans le psychologie, bien que vous obligez d'en faire un peu, comme la sociologie, on peut pas éviter non plus, c'est exactement. Un tout, c'est la vie, hein. S'il y a un peu d'espoir aussi par moment, les personnages voulaient sortir de quelque chose, ou ils passent par des phases, donc essayez peut-être de les sortir de quelque chose, qu'ils fassent une route, non, je sais pas.
Alors, la question de l'espoir, c'est une super question problématique. Là, c'est à 100 points, c'est la question à 100 points, ça. Parce que l'espoir, alors. L'espoir, bon, il y a plusieurs choses en fait avec ça. C'est que d'abord, moi, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression qu'en écrivant, les personnages me servaient de pas d'exutoire, mais c'était un peu des hypothèses de, tout ce que j'aurais pu être si j'avais pas eu l'écriture pour me sauver la peau à un moment donné, en fait. Donc ils se suicident, ils violent, ils font tout. Enfin, c'est une horreur. mais parce qu'il y a, parce que dans l'écriture, pour moi, il y a un rapport à la question de sortir de soi, à la question comment on est dans ce monde-là, voilà. Et donc l'espoir, c'est aussi, ça fait aussi partie de ces questions-là. Et donc du coup, c'est vrai que parfois il y a des choses très négatives que j'ai assumées plus pleinement dans mes livres. Parce que d'une certaine manière, ça me permettait, moi, de me libérer de ça, en fait. Même si, mais de m'en libérer sur un plan plutôt symbolique que psychologique, pour le coup. Et parce que c'est vrai que je me faisais un peu le récit possible de ce qu'aurait pu être ma vie si à un moment, voilà. Bon, ce qui est complètement en même temps. Fantasmé de manière. Donc, l'espoir, c'est toujours. C'est la question du livre qui termine bien, ce qui est aussi très problématique, très difficile, en tout cas. Mais moi, je trouve qu'il y a toujours de l'espoir dans mes livres. J'aime pas tellement qu'on me dise, par exemple, que mes livres sont tristes. J'aime bien, ils sont durs quand ils sont réussis, mais tristes, je crois pas, parce que j'essaie quand même de donner quelque chose qui. Qui donne un peu de. D'espoir, mais c'est pareil, l'espoir c'est un mot qui est tellement grand, enfin, c'est un peu, ouais, c'est un peu, voilà, espoir, c'est, voilà, disons qu'il y a une vitalité, c'est un peu littéraire, quoi, c'est un peu, bon, et donc je me méfie un peu de ça, mais par exemple, pour Dans la foule, à partir du moment où je m'étais servi vraiment d'un événement réel, pour moi c'était important de pas laisser les personnages au bord de la route et de les laisser dans le désespoir total. Pour moi, c'était vraiment important de donner une ouverture à la fin du livre, de faire quelque chose qui ouvre, aussi bien pour le lecteur d'ailleurs, mais vraiment pour les personnages, ça me paraissait pas possible d'être dans quelque chose d'absolument d'une noirceur terrible, quoi. Mais en même temps, bon, par exemple, là, j'ai écrit un court texte qui va sortir dans quelques mois, et c'est un texte que j'ai écrit à partir d'un fait divers, et franchement, bon, c'est là, franchement, l'espoir, il n'y en a pas dedans, mais le fait divers qui m'a inspiré ça, il n'y avait pas d'espoir du tout, quoi. C'est peut-être vous avez entendu parler de l'histoire du type qui s'était fait tabasser par des vigiles dans un supermarché parce qu'il avait volé une canette de bière. Alors, moi, j'en fais une fiction, mais voilà, moi, c'était un moment, ça s'est écrit très vite, et en même temps, c'était une telle violence d'écriture que là, par exemple, je sais qu'il y a un rapport. Et en même temps, l'espoir, ça vient quand même. D'ailleurs, il parle de l'espoir. Il y a cette question de l'espoir quand même dans le texte. Mais parce que j'étais justement, ben non, d'espoir, il n'y en a pas, quoi. D'espoir, il n'y en a pas là-dedans. Et pourquoi faudrait-il qu'il y en ait? Parfois, il y a des moments dans la vie, il y a des situations dans la vie qui sont, ben non, il n'y a pas d'espoir. Et parfois, je me dis aussi que. Mais ça, c'est aussi un. Peut-être alors quelque chose que j'aimerais théoriser plus sur la question de que peut la littérature. Parfois, je me dis si on apprenait, si la littérature pouvait nous apprendre à vivre un peu sans mensonge et un peu sans faux espoir et sans illusion, assumer parfois que la vie peut être dure. Peut-être qu'au quotidien on la vivrait mieux. Et moi, si je me dis si la littérature pouvait nous aider à simplement parfois ouais, assumer que parfois, ben oui, il n'y a pas d'espoir et ben, il faut vivre avec et c'est comme ça pour tout le monde. Et parce qu'on vit toujours dans un monde où quand même il faudrait sourire, il faudrait tout va très bien malgré tout, nanana, et qu'on finit par culpabiliser d'aller mal. Et moi, parfois, je voudrais aussi écrire ça, quoi, dire que parfois, ben non, c'est pas comme ça.
Moi, j'appelle ça le grotesque tragique.
Bah oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Merci beaucoup, Laurent Mauvigné.
Merci beaucoup
pour vos réponses à nos questions. Merci à vous. Bonne soirée à tous.